France Inter.
France Inter, il est 13h. Voici le 13-14 avec Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'attente des proches insupportable et le travail d'identification des victimes si difficile. Après l'incendie qui a embrasé un bar au cœur de la station de ski de Crans-Montana, le bilan, pas encore consolidé, fait état d'une quarantaine de morts, 115 blessés, dont 80 en état critique. Beaucoup de familles n'ont pas de nouvelles. On ira sur place retrouver nos envoyés spéciaux. On verra que l'Europe s'est mobilisée pour que les blessés soient accueillis, soient soignés dans les pays voisins, notamment la France. On parlera aussi de l'enquête, pourquoi le feu s'est-il propagé si vite et le drame pourrait-il se reproduire ailleurs? On posera la question à notre invité, c'est l'un des responsables de l'Union des métiers des industries hôtelières. Dans l'actualité aussi de ce 2 janvier, les États-Unis vont-ils intervenir en Iran? Donald Trump se dit prêt à défendre les manifestants, mais ce serait une ligne rouge, répondent les autorités de Téhéran. On parlera aussi de cet arnaqueur au sentiment qui depuis 20 ans sillonne la France pour séduire des femmes seules, avant de repartir avec leurs économies.
Ce gars, il m'a laissé comme une serpillère. Et je me dis qu'il y a des gens qui sont un peu moins forts que d'autres, ils y laissent leur peau en fait.
C'est une enquête de la cellule investigation de Radio France. On parlera aussi du Dry January, le mois de janvier sans alcool. L'organisation des alcooliques anonymes s'y associe pour la première fois. Et puis des soldes qui démarrent déjà en Lorraine.
Les gens ont reçu de l'argent pour les fêtes, donc oui, ils vont profiter de ces soldes. Un phénomène aussi qui s'amplifie d'année en année, c'est le système de cartes cadeaux.
Voilà, pour le reste de la France, encore un peu de patience. Ça ne sera pas avant mercredi prochain, le début des soldes. Et puis à 13h30, faut-il des cours pour aider les étudiants à gérer leur budget, à faire la cuisine, bref, à devenir des adultes? Plusieurs universités nord-américaines les ont instaurées. Peut-être une bonne idée à imiter ici en France. On en parle avec nos invités et avec vous. 01 45 24 7000 pour vos questions et pour vos témoignages. Voilà pour le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Des fleurs ont été déposées par centaines aux abords du bar incendié. Des messages de soutien proviennent du monde entier, notamment du Vatican ce matin, où le pape exprime sa compassion et sa sollicitude. Et pourtant, l'heure n'est pas encore totalement au recueillement à Crans-Montana, tant les questions restent nombreuses. Bonjour Timur Özturk.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de France Inter dans la station de ski suisse, devant le centre des congrès. C'est là que sont accueillies, Timur, les familles qui sont toujours à la recherche d'un proche disparu.
Oui, elles sortent une par une par les portes vitrées de ce petit centre des congrès gardé par la police. Nicolas, 21 ans, est lui passé discuter avec une psychologue, même si c'est pas son truc, dit-il. Là, il en avait besoin.
Là, j'ai parlé un peu avec la dame, ça va un peu mieux, mais j'étais bouleversé. Parce que j'ai vu des choses horribles, je pensais pas ça possible. J'ai un peu les images en tête, mais j'espère pouvoir dormir cette nuit.
Comme d'autres, il a tenté d'aider des jeunes à sortir du brasier. Il a cassé des vitres à main nue, tiré des corps. Ce matin, il a eu quelques nouvelles des victimes auprès des autorités.
Ils nous ont dit qu'il y avait 40 morts, 4 personnes non identifiées, 3 hommes et une femme. Pour moi, Dieu merci... Mes amis sont, je sais où ils sont, comparé à ces pauvres familles qui sont encore dans le doute total.
Des familles qui sortent en larmes du bâtiment, comme ces Italiens.
Nous sommes en train d'attendre l'identification d'une personne.
Leur proche n'a pas encore été identifié. D'autres refusent de parler au micro. Il n'y a plus rien à dire. On a eu des nouvelles, de mauvaises nouvelles, lâche une femme en remontant dans sa voiture.
Merci Timur Özturk. Le travail d'identification des victimes prendra encore plusieurs jours selon les autorités, alors que l'enquête aussi se poursuit bien sûr pour tenter de confirmer la provenance de l'incendie, comprendre aussi pourquoi le feu s'est propagé aussi rapidement. Bonjour Marc Bertrand.
Bonjour.
Vous êtes vous aussi en direct de Crans-Montana, où se posent évidemment des questions sur la sécurité de l'établissement tenu par un couple de Corse, sur la jeunesse des victimes. L'alcool est autorisé à partir de 16 ans en Suisse et les habitants de la station s'interrogent, Marc.
Oui, le Constel, comme on l'appelle ici, son sous-sol exigu, c'est DJ7. Les jeunes de Crans le connaissent tous ou presque. Diana, 18 ans, et ses copains sont déshabitués. Ils se demandent comment ils n'ont pas pu voir le risque.
C'est une cave. C'est sous-sol, il n'y a pas de sortie de secours.
Il y a une sortie de secours, entre guillemets, qui est censée donner sur l'immeuble, mais voilà, la seule fois où je l'ai vue, cette sortie, je crois qu'elle était fermée à clé.
Il y a des mineurs qui peuvent rentrer, alors que... Bref, mais c'est, je pense que c'est la dernière chose à laquelle on pense, franchement.
On se dit que ça arrive pas chez nous, quoi.
Ouais, on se dit que ça arrive
aux autres.
Alors, les issues de secours, la présence d'extincteurs aussi, tout ça, c'est l'enquête qui devra déterminer si l'établissement respectait les règles. Mais ce qui frappe ici dans la station, c'est de voir à quel point ça paraît normal d'avoir des jeunes dans un bar de nuit. Laetitia est maman, sa fille va souvent aux Constellations.
Les jeunes qui ont 18 ans sont autorisés à aller en boîte de nuit, mais ceux de 15 ans, ben, c'était leur lieu de rencontre.
Vous y êtes déjà allé
Ben, c'était notre bar d'enfance, hein. Moi, j'ai grandi là. Moi, j'habite en face. C'était notre bar, quoi.
Les propriétaires de l'établissement, un couple corse, beaucoup les connaissent ici et tout le monde en dit du bien. Ils tiennent un autre bar dans la station, le Senso. Ce midi, les rideaux sont fermés. Sur l'ardoise, il est écrit « Fermeture exceptionnelle ». Une commerçante voisine souffle qu'elle ne voudrait pas être à leur place.
Merci Marc Bertrand, en direct de Crans-Montana pour France Inter. Grâce aux moyens techniques de Julien Girard, on entend donc, avec tous les témoignages que vous avez recueillis, beaucoup les questions qui perdurent sur la propagation du feu, les issues de secours étaient-elles suffisantes, les matériaux utilisés dans le bar aussi étaient-ils adaptés, les autorités locales s'interrogent et donc ces questions nous ramènent donc sur la réglementation. On va en parler avec notre invité David Zenouda, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans le 13-14 de France Inter. Vous êtes l'un des responsables de l'UMIS, c'est l'Union des métiers des industries hôtelières, vice-président aussi de la branche nuit, qui regroupe donc les bars de nuit et les discothèques. Alors, il n'est pas question évidemment de faire l'enquête à la place des enquêteurs, mais quand vous voyez, David Zenouda, les images de cet incendie, est-ce que vous vous dites manifestement il y avait quelque chose qui n'allait pas ?
Oui, c'est tout un enchaînement en fait d'actions qui ont mené à ce drame, ce qu'on appelle un effet domino tout simplement, c'est-à-dire que la personne qui a fêté son anniversaire a commandé une bouteille, sur cette bouteille on a posé une bougie scintillante, sur cette bougie scintillante la serveuse est montée sur les épaules de son collègue, le plafond était trop bas, sur le plafond vous aviez un matériau visiblement qui n'était pas adapté à ce type d'établissement et qui est surtout très inflammable, et puis des issues de secours qui apparemment n'étaient pas suffisantes pour évacuer, et puis les messages d'alerte, enfin tout un tas de réglementations que nous avons en France, et que apparemment dans cet établissement c'était pas en place.
Revenons à ce plafond effectivement du sous-sol qui s'embrase très rapidement en quelques dizaines de secondes. C'est alors un isolant phonique, on imagine, c'est pour éviter que le bruit soit trop important. C'est un matériau qui n'est pas autorisé en France. Comment ça se passe d'ailleurs dans les discothèques en France ou dans les bars de nuit?
Alors, il faut savoir, en tout cas au vu des premières images, que ce matériau qui est utilisé n'est pas un isolant phonique conforme. Vous le savez, vous qui travaillez à la radio, ce sont des isolants qu'on utilise dans des studios d'enregistrement, mais en aucun cas, ce sont des isolants qui servent à isoler des établissements. Pour isoler un établissement, il y a des règles d'isolation qui sont assez strictes, notamment pour éviter que le feu se propage, mais surtout pour que l'isolation fonctionne bien. Donc, ce n'est pas du tout ce matériau qui est utilisé. Celui-ci est très inflammable. C'est certainement le même matériau qu'on a retrouvé aussi dans l'incendie en 2016 dans un bar à Rouen.
Alors, comment ça se passe si jamais il y a le feu dans un établissement où tout est aux normes? Ça veut dire que ça ne s'embrasse pas? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe en fait si une bougie touche un mur ou un plafond?
Ben déjà, les bougies sont interdites. Il faut le savoir que ce qu'on appelle flamme nue est interdite. Et puis, que ce soit discothèque ou café-bar-restaurant, la réglementation est très stricte, en tout cas en France. Et un certain nombre de règles pour la protection incendie, la protection des consommateurs est mise en place. Dans une discothèque, par exemple, vous avez une extraction en cas de fumée. Vous avez des alarmes incendie qui coupent la sono et qui envoient des messages préenregistrés. Les lumières s'allument. Les issues de secours sont indiquées. Les issues de secours sont suffisantes par rapport à la capacité d'accueil que l'on a dans l'établissement. Bref, tout un tas de... Et puis, des commissions de sécurité viennent vérifier, en tout cas dans les discothèques, viennent vérifier une fois par an que cette réglementation est bien appliquée.
David Zenouda, vous parliez de Rouen à l'instant, vous faisiez référence à cet incendie qui avait fait 14 morts au Cuba Libre, c'était en 2016. Est-ce qu'il y a eu depuis ce drame-là, depuis d'autres qui se sont passés aussi en France, un renforcement des normes? Est-ce qu'on peut dire qu'on va vers plus de sécurité au cours des dernières années?
Vous savez, en France, on a déjà été très très vigilant depuis le drame de 1970 qui a fait plus de 150 morts, je crois, dans une discothèque. Mmh. Et à partir de ce moment-là, on a légiféré. Et vous savez, aujourd'hui, pour ouvrir un établissement recevant du public, il faut effectuer des formations. Il faut vraiment être au fait de toutes les normes et les conditions d'accueil de la clientèle sont extrêmement rigides. C'est vrai qu'on a évolué. on peut encore mieux faire parce que, je le rappelle, une discothèque est un établissement où les clients dansent, un bar, un restaurant est un établissement où on vient soit se restaurer, soit boire des verres, mais la danse n'est pas le
il y a un flou peut-être.
Il y a encore un flou, il y a surtout des éléments à mettre en place pour rassurer à la fois notre clientèle et rassurer les propriétaires d'établissements qui ne doivent pas être mis en cause alors qu'ils sont en règle.
Merci beaucoup pour votre éclairage, David Zenouda. Je rappelle que vous êtes vice-président de la branche nuit au sein de l'UMI, l'Union des métiers et des industries hôtelières. On a donc compris que l'urgence était de voir ce qui s'était passé, d'identifier les victimes et puis de soigner aussi les blessés. 115 blessés, hein, je le disais tout à l'heure, dont 80 sont dans un état critique selon les autorités locales. Et il faut dire que les premières heures sont les plus délicates pour les grands brûlés. C'est ce qu'explique François Després, il est médecin anesthésiste réanimateur et responsable du centre de traitement des brûlés à l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Là, il y a l'urgence vitale, les 24-48 premières heures. C'est des patients qui vont perdre beaucoup de liquide à cause de la brûlure et de l'inflammation en lien avec la brûlure. Et donc, il faut compenser ces pertes. Et donc, on les perfuse avec des liquides. S'ils ont une atteinte respiratoire ou pas, on peut faire d'autres traitements. Mais donc, voilà, il y a cette phase un peu aiguë. Les patients sont trop instables pour faire de la chirurgie. Et puis, passé ces 24-48 heures, on peut commencer à faire des chirurgies de greffe. Les chirurgiens retirent la peau brûlée et viennent y poser de la peau qu'ils ont prélevée dans des endroits où elle n'était pas brûlée. Et donc, c'est à ce moment-là plutôt qu'on commence à avoir besoin de centres spécialisés, que ce soit les équipes paramédicales, notamment pour faire les pansements, les équipes médicales. Il n'y a aucun pays qui a suffisamment de lits pour accueillir d'un coup, comme ce qui vient de se passer à Grand Montana, autant de grands brûlés. C'est pour ça qu'il y a des plans qui existent pour ce genre de catastrophe, pour pouvoir répartir ensuite les patients dans différents pays européens.
François Després au micro d'Alice Cachaner, et ses patients effectivement ont été transférés un peu partout, à Lausanne, Genève, Zurich, mais aussi en Italie, en Allemagne ou encore en France, qui a déjà accueilli 3 blessés. Le pays va prendre en charge 8 patients supplémentaires, disait le Quai d'Orsay en début de journée. Et ce plan dont parlait ce médecin de l'hôpital Saint-Louis, eh bien c'est le mécanisme de protection civile de l'UE. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé hier l'avoir activé. Quelles sont les priorités?
Eh bien, la priorité numéro un, c'est d'aider la prise en charge rapide de ces grands brûlés. Une véritable course contre la montre du fait de la gravité des blessures et du peu de lits disponibles pour les soigner en Suisse. À peine une dizaine pour plus de 100 blessés. Beaucoup sont donc réorientés vers les pays voisins, États membres de l'Union européenne, comme la France et l'Italie. Partie prenante de ce mécanisme européen de protection civile, la Commission européenne apporte, elle, un soutien logistique à travers son centre de coordination des interventions d'urgence, basé à Bruxelles, un centre qui dépêche sur place en Suisse des équipes qui aident à l'orientation des blessés vers tel ou tel pays, qui peut prendre en charge certains frais d'évacuation si besoin, et qui assure le lien avec les autorités helvétiques, ce qui évite à la Suisse une multiplication des interlocuteurs et des canaux de communication. Le mécanisme de protection civile est habituellement activé en cas de catastrophe naturelle. Il a été plus de 800 fois en 25 ans d'existence, notamment pour venir en aide à des victimes d'incendies, d'inondations ou de cyclones en Europe et partout dans le monde.
Voilà donc l'Europe mobilisée après ce drame de Grand Montana. Merci Fabien Cazot, en direct de Bruxelles pour France Inter.
France Inter, le 13-14, Céline Asselot.
Le mouvement est né dimanche dernier dans le bazar de Téhéran où les commerçants avaient fermé leurs boutiques pour protester contre la vie chère. Il est en train de s'étendre à tout le pays, en train de se durcir aussi. 6 personnes ont été tuées hier dans l'ouest de l'Iran dans des affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre, tandis que 30 personnes ont été arrêtées dans la capitale, accusées de troubles à l'ordre public. Et c'est dans ce contexte que la Maison-Blanche se dit prête à intervenir pour soutenir les manifestants. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Une prise de position de Donald Trump qui vient rappeler que l'Iran reste un ennemi pour les Américains.
Ah oui, nous sommes prêts à intervenir, a déclaré le président américain. Si l'Iran tire sur des manifestants pacifiques et les tue violemment comme à son habitude, eh bien les États-Unis d'Amérique viendront à leur secours. La mise en garde a le mérite d'être claire. Elle reste d'autant plus crédible que les États-Unis sont intervenus l'année dernière sur le sol iranien. C'était en juillet. À l'époque, il s'agissait de soutenir l'ami israélien. Conséquence, une nuit de bombardement entre le 21 et le 22 juin dernier contre plusieurs sites nucléaires. Alors évidemment, l'Iran a réagi en conseillant à Donald Trump de prendre garde en cas d'intervention. La réaction vient du plus haut niveau puisqu'elle est signée d'un conseiller du guide suprême d'Ali Khamenei qui menace en expliquant que déstabiliser l'Iran équivaudrait à déstabiliser toute la région et à nuire aux intérêts américains. Un autre conseiller parle de ligne rouge car c'est finalement là l'un des derniers arguments des mollahs de laisser penser que la fin de leur régime pourrait être synonyme de chaos, un peu à la manière de ce qui s'est passé en Libye avec la chute de l'ancien leader Kadhafi.
Merci Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale. Donald Trump qui a fait de la menace son mode de fonctionnement sur la scène internationale et le Venezuela en sait quelque chose. Voilà plusieurs mois que la Maison-Blanche fait pression pour obtenir le départ du président Maduro, accusé de soutenir le trafic de drogue. Le président vénézuélien qui se dit prêt aujourd'hui à discuter avec les États-Unis de lutte anti-drogue, de pétrole ou encore d'accords économiques. En début de semaine, Washington avait annoncé avoir mené une frappe terrestre pour la première fois au Venezuela sur une installation portuaire, information que Nicolas Maduro refuse aujourd'hui de commenter. La Norvège quasiment passée au 100% électrique. Les voitures électriques ont représenté 95,9% des ventes en Norvège au cours de l'année 2025. Le gouvernement a mis en place des mesures très incitatives pour pousser les automobilistes à franchir le pas. On en vient à l'histoire de cet arnaqueur au sentiment, un homme qui depuis une vingtaine d'années abuse de la confiance des femmes qu'il rencontre, toujours des femmes seules, agricultrices ou encore infirmières qui lui ont confié des travaux de bricolage ou bien qui ont entretenu avec lui une relation amoureuse avant de se voir dérober leurs économies. Et c'est un homme qui échappe toujours à la justice. Bonjour Laetitia Chérel.
Bonjour.
De la cellule investigation de Radio France, avec Léa Bouquet, vous êtes partie sur la trace de cet arnaqueur en série.
Oui, il a 46 ans. C'est un bel homme, sportif, les yeux verts. Il séduit ses victimes, s'installe chez elles avant de disparaître avec leurs économies. C'est ce qui est arrivé à Stéphanie, une agricultrice de 51 ans qui vit dans les Hautes-Pyrénées. Pendant un mois et demi, il a réparé sa ferme contre le gîte et le couvert, puis il s'est enfui avec 1200 euros.
Il m'a foutu comme une merde. Ce gars, il m'a laissé comme une serpillère. Et je me dis qu'il y a des gens qui sont un peu moins forts que d'autres, ils y laissent leur peau en fait.
Alors Laetitia, les sommes ne sont pas toujours très importantes, mais à chaque fois, la vie de ces femmes est bouleversée.
Oui, c'est aussi le cas de cette auto-entrepreneuse près de Narbonne. Cette fois, l'escroc s'est enfui avec, tenez-vous bien, la tirelire de sa fille de 12 ans. 800 euros économisés pour lui offrir un concert de pop coréenne à Paris.
Là, ça bascule dans un autre registre. Parce qu'elle était clairement dans l'affect, cette tirelire. C'était la tirelire de mon enfant, surtout quoi.
Et ce qui est encore plus douloureux, c'est le message qu'il lui a envoyé la veille sur son téléphone. Écoutez-le.
Coucou ma puce. Encore mille merci de cet élan d'amour. Je me rends vraiment compte des barrières que tu as défoncées pour pouvoir m'accueillir dans ta bulle, dans votre bulle. Vous êtes magnifique. Merci de ces moments.
Et cet homme, il n'a jamais été arrêté?
Alors si, une fois en 2023, à Tarbes, mais il a été rapidement relâché. Et deux ans plus tard, lorsqu'il est condamné à 2 ans de prison ferme, il est absent à l'audience et depuis, il court toujours et il continue d'arnaquer des femmes, comme Caroline, par exemple, cette agricultrice dans le Gard. Il lui a dérobé 15 000 euros, toutes ses économies. Alors, avec une autre victime, elle a décidé de se lancer à sa poursuite en passant de fausses annonces. Et ça a marché. Elles ont retrouvé sa trace, puis contacté la gendarmerie. Mais une nouvelle fois, il a disparu dans la nature.
Moi, ça me rend dingue. Toute cette énergie que je déploie pour leur donner toutes les informations sur un plateau et que derrière, l'autre, il court toujours.
Une dizaine de plaintes ont été déposées contre lui ces 2 dernières années, mais ses victimes sont sans doute beaucoup plus nombreuses.
L'insaisissable routard de l'arnaque au sentiment, c'est votre enquête Laetitia Chérel avec Léa Bouquet. Elle sera diffusée ce soir en intégralité à 18h20 sur France Inter et on peut déjà l'écouter sur l'appli Radio France. À Mont-de-Marsan, le corps d'une femme découvert enterré dans le jardin de son ex-compagnon. Cette quadragénaire était portée disparue depuis le 25 décembre. La police avait diffusé un appel à témoins pour disparition inquiétante. présente. Son ex-conjoint placé en garde à vue hier a reconnu l'avoir tué après le réveillon, selon le parquet de Mont-de-Marsan. 132 personnes placées en garde à vue à Paris durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Bilan revu à la hausse par le parquet de Paris ce matin. Parmi elles figurent 22 mineurs. Voilà qui devrait relancer l'inquiétude des éleveurs. Un nouveau cas de dermatose a été détecté dans un élevage bovin d'Ariège. Selon le ministère de l'Agriculture, un troupeau de 113 vaches qui pourtant avaient été vaccinées il y a une quinzaine de jours doit donc être abattu aujourd'hui dans ce département de l'Ariège où les agriculteurs restent mobilisés malgré la campagne de vaccination menée par le gouvernement. Des déchets agricoles ont été déversés hier soir devant la préfecture de Foix où une centaine d'agriculteurs se sont rassemblés dans le calme. Aucune violence n'a été relevée. L'ambiance avait été nettement plus tendue à Auch dans le Gers le week-end dernier. Les policiers avaient dégainé leurs armes pour forcer un agriculteur à immobiliser son tracteur. La coordination rurale du Gers avait décidé de saisir l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Mais le parquet n'a pas donné suite. À peine Noël terminé, à peine la nouvelle année entamée, voici déjà venu le temps des soldes. Alors pas partout en France, dans la plupart des régions, ce sera à partir de mercredi prochain, mais c'est dès aujourd'hui en Lorraine pour s'aligner sur le calendrier. Des voisins belges et luxembourgeois, alors débuter les soldes au lendemain d'un jour férié, eh bien ça demande une certaine organisation. Isabelle Baudrier a pu le constater dans les rues de Nancy.
Des boîtes de chaussures empilées, des vêtements à classer, Amélie, la gérante, et son employé s'affairent.
On est en train d'étiqueter, de remonter aussi des choses qu'on avait en réserve d'anciennes collections, qu'on remet aussi en rayon et qu'on va mettre en solde.
Des soldes au lendemain d'un jour férié, l'affaire est rodée maintenant.
Oui, ça y est, voilà, on anticipe tout ça pour être prête à l'ouverture, oui.
Bonjour.
C'est Perrine qui vient d'entrer.
Est-ce que vous êtes adepte des soldes, vous ?
Pas du tout.
Il y en a toute l'année, on n'y comprend plus grand-chose, je ne fais pas les soldes particulièrement.
Rama, elle, apprécie cette période.
Moi, j'aime bien parce qu'on voit plein de personnes différentes, on voit des gens qui ne sont pas forcément de notre clientèle d'habitude et c'est sympa.
Dans cette boutique de chaussures pour enfants, elle a écrit les étiquettes de rabais pour chaque paire.
Par exemple, les modèles de cette année qui ne sont pas fourrés, on va faire 30%, les fourrés, on va faire 20%, et pour ceux des années passées, on va faire 40%, 50%, ça va dépendre en fait.
Après les fêtes, les clients ont-ils encore un budget solde ? Le président des vitrines de Nancy, Sébastien Duchowitz, est confiant.
Les gens ont reçu de l'argent pour les fêtes, donc oui, ils vont profiter de ces soldes. Un phénomène aussi qui s'amplifie d'année en année, c'est le système de cartes cadeaux.
De plus, selon lui, le vendredi est un bon jour pour démarrer les soldes. Le week-end est toujours porteur pour le commerce.
Reportage signé Isabelle Baudrier, ici Lorraine et partout ailleurs. Eh bien, les soldes, ce sera du 7 janvier au 3 février prochain. Janvier, c'est aussi le mois sans alcool, en tout cas pour une partie d'entre vous. Le Dry January commence en 2024. 4,5 millions de Français y avaient participé, selon une étude. De plus en plus en vogue, malgré l'absence de soutien des pouvoirs publics, le dispositif est défendu par des associations, des fédérations qui luttent contre les addictions, et désormais aussi par les alcooliques anonymes. Leur but, normalement, n'est pas faire de la prévention, mais l'organisation a cette fois décidé de participer. Elle va poster une vidéo par jour tout au long de ce mois de janvier, avec des témoignages de ceux qui s'en sont sortis, pour que tout le monde s'interroge sur son rapport à l'alcool, explique François. C'est le référent des alcooliques anonymes en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Dry January, ça permet de se poser des questions, parce que la plupart du temps, les alcooliques en puissance sont souvent dans le déni. Donc en fait, c'est quand on est face au manque, c'est-à-dire que on est dans une démarche d'essayer de voir ce qui se passe quand on arrête la consommation. C'est pas toujours évident d'identifier vraiment la problématique d'alcool, qui d'ailleurs peut souvent associer à d'autres dépendances, la clope, le shit. Identifier vraiment l'alcool au milieu de tout ça, c'est pas forcément évident. Effectivement, ça peut après déclencher des vocations entre guillemets, c'est-à-dire de dire, j'ai un problème avec l'alcool. Comment je pourrais faire pour m'en sortir, quoi.
Le référent des alcooliques anonymes en région Auvergne-Rhône-Alpes au micro d'ici Dromardèche. Elle a déjà tout gagné et elle a visiblement bien l'intention de continuer malgré son âge. La championne de tennis Venus Williams vient de revoir une invitation à participer au prochain Open d'Australie à 45 ans. Elle va devenir la participante la plus âgée de l'histoire de ce tournoi du Grand Chelem. Ce sera à partir du 18 janvier. Lui aussi espère bien battre un record, alors pas de longévité. longévité mais de vitesse. Thomas Coville est parti en quête du trophée Jules Verne. C'est le record du Tour du Monde à la voile. Avec ses 6 équipiers, le navigateur est actuellement au sud-ouest de l'Australie, toujours en avance sur le record de Francis Joyon, même s'ils ont perdu du temps dans l'océan Indien en raison de mauvaises conditions météo. Mais Benjamin Schwartz, l'un des navigateurs du Maxi Trimaran Sodebo Ultime 3, se veut optimiste pour la suite.
L'Indien a une réputation d'avoir une mer qui est très courte et très difficile, et ça n'a pas manqué. On a eu beaucoup de vent. L'autre point noir, ça a été le fait de rencontrer des glaces. Donc ça a été difficile pour les organismes, c'est sûr. Mais en termes de performance, c'était plutôt satisfaisant. On savait que notre avance fondrait, mais on a de bon espoir de se refaire à partir de la Nouvelle-Zélande, là où lui a vraiment commencé à ralentir, et on espère être un petit peu mieux verni dans le Pacifique.
Voilà Benjamin Schwartz, l'un des coéquipiers de Thomas Coville, joint pour France Inter par Noureddine Zidane. Et pour preuve que la mer et les marins font toujours rêver, la maison de Pierre Loti à Rochefort ne désemplit pas. Plus d'un siècle après la disparition de l'écrivain voyageur et officier de la marine, son domicile a fait l'objet d'une rénovation. Fermée pendant plusieurs années, la maison a rouvert au mois de juin et elle attire de très nombreux visiteurs. Les réservations sont ainsi complètes jusqu'à la fin du mois de mai. La passion Loti est visiblement intacte, Camille Amarigo.
D'une salle chinoise au salon turc, en passant par la mosquée, chaque pièce de la maison Pierre Loti est un voyage. Armel El-Kaïm, responsable à l'accueil, constate chaque jour le même envoûtement chez les visiteurs.
Ce qui est génial, c'est qu'on voit les gens arriver, sortir de la visite. C'est comme s'ils arrivaient à l'aéroport et ils sont un petit peu déboussolés. Il leur faut quelques minutes avant de se reconnecter à la réalité et se dire on vient d'atterrir en fait.
Selon elle, 60% des visiteurs repartent avec l'un des romans ou récits de voyage de Pierre Loti vendus à la sortie. Et l'engouement est encore plus fort chez les libraires de la ville.
Il n'y a pas photo, quoi. La maison fait vendre du livre.
Comme Gaël Le Priol de la bien nommée librairie Pierre Loti, qui a vu la différence entre 2024 et 2025.
On est à 4 fois plus, donc de 268 livres, pour être précise, à 1000, quoi.
Une autre librairie rochefortaise évoque même un chiffre d'affaires colossal en 2025 sur les ouvrages de et sur Pierre Loti, notamment ses biographies, dont certaines écrites par l'historien Alain Kellavi-Léger.
Il y a eu d'abord des rééditions critiques, qui avait commencé d'ailleurs avec le centenaire de la mort de Loti en 2023. La maison est venue en 2025 accompagner ce phénomène éditorial. Et l'ensemble des éditeurs qui ont publié Loti depuis 2 ans sont très satisfaits.
Et sans pouvoir encore le chiffrer précisément, l'Office de tourisme de Rochefort confirme aussi un effet Pierre Loti depuis juin dernier, surtout sur les réservations de groupes dans les hôtels ou les restaurants.
Camille Marigo, et si vous espérez visiter la maison de Pierre Loti à Rochefort, sachez que la prochaine ouverture de créneau, ce sera le 1er avril prochain pour des visite à partir du mois de juin. Notez la date parce que visiblement ça part très vite. Et puis un mot pour vous apprendre la mort de Francis Allais, ce très grand connaisseur des arbres. S'est éteint chez lui à Montpellier à l'âge de 87 ans, botaniste émérite à la renommée internationale. Il était notamment spécialiste des forêts primaires, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment La beauté du vivant. Vous avez pu l'entendre souvent sur l'antenne de France Inter. Et d'ailleurs tout à l'heure à 14h15, on rediffusera une émission de La Terre au Carré qui date de 2024, où le botaniste Francis Allais était l'invité de Mathieu Vidard. 13h27, restez avec nous sur France Inter. Dans un instant, les prévisions météo de Laurence Dezélé. On parlera du froid qui va encore durer, peut-être même s'accentuer pendant le week-end. Je vois Laurence qui hoche la tête à côté de moi. On accueillera ensuite nos invités pour parler de cette initiative québécoise. À l'Université de Montréal, on donne des cours aux étudiants pour apprendre à devenir adulte, à cuisiner, à gérer son budget. Alors devrait-on s'en inspirer? On en parle avec nos invités à Montréal et à Paris. Et avec vous, j'attends vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. Une semaine dans leur vie, on monte à bord de la remorque d'un pizzaïolo ambulant aujourd'hui. Un cuisinier des Vosges qui rêvait de prendre la route. C'est un feuilleton signé Cécilia Arbona. 13h50, c'est la France. Et ce vendredi, c'est la France des océans que l'on explore. Avec vous, Virginie Troussier, bonjour.
Bonjour Céline.
Alors, où partons-nous aujourd'hui?
L'île de Sein, une île où le monde semble tenir un fil, mais où l'on apprend à respirer autrement au rythme du vent.
Et puis c'est dans une chanson, on boucle notre semaine spéciale Souchon avec aujourd'hui l'animateur Jamy Gourmaud.
Quand on a besoin de se poser, systématiquement, quand je veux me remettre en place, revenir dans mon cocon, quand y a un coup de pompe, un coup de blues, j'écoute Souchon.
Il a choisi, Jamy Gourmaud, la chanson « Saute en l'air ». Il nous dira pourquoi au micro de Frédéric Pommier. Ce sera juste avant 14h. Tout de suite, la météo.
La météo avec Bleu Forêt.
le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Et c'est donc avec vous Laurence Dezelle, bonjour.
Bonjour Céline.
Et le ciel de cet après-midi, eh bien, il va ressembler beaucoup à celui d'hier.
Oui, c'est ça. Météo France prévoit encore un temps perturbé sur le nord du pays cet après-midi. On attend de nouvelles chutes de neige sur le nord-est. Neige qui pourrait s'étaler un petit peu jusqu'aux Hauts-de-France et en région parisienne. Dans le nord-ouest, de la pluie fine, surtout en Normandie et en Île-de-France. Il pourrait y avoir un petit peu de neige fondue mêlée à ces averses. Et puis au fil des heures, la neige va descendre en direction de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Attention d'ailleurs aux routes glissantes par endroits.
Et dans le sud, Laurence, comment ça se passe cet après-midi ?
Eh bien, le ciel va rester couvert du sud-ouest au Languedoc-Roussillon alors qu'il fera beau sur le sud-est. En soirée, on attend des chutes de neige à partir de 1800 mètres sur les Pyrénées, 1500 mètres en Corse. La Corse, on attend aussi pas mal de vent. 100 km/h en rafale sur les caps. Du vent là aussi, mais moins fort le long des côtes de la Manche vendredi. Le thermomètre affiche entre 1 et 15 degrés du nord au sud. Et effectivement, il va faire froid demain aussi.
Merci Laurence Dezelle. Il paraît qu'il neige à l'extérieur de la maison de la radio. On vient de me le dire dans l'oreillette puisque nous n'avons pas de fenêtre. Mais nous irons voir ça, évidemment, juste après l'antenne de France Inter. À tout de suite.
France Inter, le 13-14, Céline Asselet.
Qui ne s'est jamais senti désemparé à l'heure de la première déclaration de revenus, à l'heure du premier rendez-vous chez le banquier, du premier CV, ou bien encore au moment de planter un clou dans le mur de son tout premier appartement. Pas toujours facile, en effet, de devenir autonome quand on a 18 ou 20 ans. Et c'est pour cette raison que plusieurs universités nord-américaines ont décidé de mettre en place des cours pour devenir adulte, en quelque sorte, pour mieux apprendre en tout cas à gérer son quotidien. Alors est-ce une idée dont nous devrions nous inspirer ? On va en parler avec nos invités. Michèle Glémeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale du service de l'admission et du recrutement à l'Université de Montréal qui propose justement des cours de ce genre. Merci beaucoup d'être avec nous depuis l'autre côté de l'Atlantique et malgré le décalage horaire. Anya Duvorich, bonjour à vous également.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de la politique spécialisée dans la jeunesse et je vais citer Jeunesse française contemporaine que vous avez co-signée aux éditions CNRS. D'abord, c'est à vous que je voudrais donner la parole. Lilou Doguet, bonjour. Vous avez 21 ans, étudiante en commerce. Alors, il se trouve que vous étudiez, vous aussi, justement, à l'Université de Montréal. Je voudrais que vous nous racontiez, est-ce que vous avez vous ressenti un manque au moment où vous êtes devenue étudiante ? Est-ce qu'il y avait des choses pratiques que vous ne saviez pas forcément ?
Tout à fait. Donc moi, je suis partie quand j'avais 17 ans. Et c'est vrai que j'ai eu un gros manque par rapport à ma famille, à mes proches quand je suis partie. Et mon université offrait en fait, il y avait une dame qui gérait les étudiants internationaux et qui a organisé des activités pour que les différents étudiants se rencontrent, etc. Et elle a aussi fait un suivi hebdomadaire avec ceux qui avaient plus de difficultés pour s'adapter.
Donc c'était pas mal d'être suivi, même si on était sur la voie de l'autonomie. Qu'est-ce qui est le plus compliqué lorsqu'on quitte le domicile familial ? Est-ce que c'est faire ses courses ? Est-ce que c'est gérer son budget ?
Pour moi, ça a été le manque et aussi les courses, parce que faut savoir que c'est pas les mêmes quantités en Amérique du Nord qu'en France, donc c'est vrai que c'était une petite difficulté.
Alors c'est vrai qu'il y a une difficulté particulière dans votre cas, hein, puisque vous étiez très loin de votre famille au Canada, mais est-ce que de manière générale, vous vous êtes dit, vous êtes rendu compte en tout cas que même si votre famille vous avait appris plein de choses, bah il y a des choses que vous saviez pas.
Bah oui, parce que déjà il faut s'adapter à une vie toute seule et c'est plus difficile de gérer le fait de il faut que je fasse mes courses, que je cuisine alors que j'ai mes devoirs à faire, etc. La gestion en fait.
De temps en temps, fallait passer un coup de fil aux parents peut-être.
Oui,
pour avoir un petit aide. Est-ce que des cours ça vous aurait été utile ? Est-ce que vous y avez pensé d'ailleurs à ce moment-là ?
Oui, pourquoi pas, oui, pour au moins avoir quelques cours peut-être au début pour faciliter l'adaptation en fait à vivre seul en fait.
Ben on va en parler de ces cours justement avec quelqu'un qui les connaît bien, Michèle Glémeau. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux étudiants de l'Université de Montréal ?
Ben en fait, c'est ça. Depuis quelques années, dans notre planification stratégique, on a positionné l'expérience étudiant en classe et hors classe comme une des priorisations. Et en fait, c'est une réponse très pragmatique à une réalité, comme la jeune fille vient de nous en parler. Les étudiants arrivent de plus en plus jeunes dans une vie adulte beaucoup plus complexe, loin de la famille, parfois sur un autre continent. Fait qu'il y a plusieurs choses qui ont été développées. Entre autres, il y a un outil que les étudiants reçoivent dès leur arrivée qui s'appelle mode d'emploi. Mmh. Et on leur apprend comment se loger. Alors, juste déjà de comprendre le langage de comment trouver un appartement à Montréal, c'est vraiment très différent de ce qu'on trouve en Europe. Comment gérer son argent, comment organiser sa vie, comment faire une gestion du stress, parce qu'en effet, c'est stressant d'être dans un autre pays, c'est stressant l'approche pédagogique, il y a beaucoup de stress qui arrive avec l'arrivée à l'université. Alors, c'est des choses qu'on a mis en place. Là, je comprends que la jeune fille, dont malheureusement j'oublie le nom, elle est à HEC Montréal. Alors, HEC Montréal fait partie de l'Université de Montréal, mais HEC a ses propres services pour les étudiants. Mm. Alors, nous, c'est des choses au sein de l'université qu'on a mis en place, mais qu'on collabore également beaucoup avec HEC. Et c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler, parce que année après année, on réalise qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Je vous donne un exemple. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre vie. Les étudiants l'utilisent dans leur vie quotidienne, mais comment qu'on l'utilise dans un contexte d'études, c'est complètement différent. Alors, je pense qu'on est condamné à s'assurer de faire évoluer comment qu'on accompagne les jeunes vers comment gérer leur vie, comment gérer leurs études et comment gérer leur future carrière.
Est-ce que
c'est un peu dans cette logique qu'on se positionne.
Est-ce que c'est facultatif? Est-ce que c'est obligatoire, Michel Glémeau?
Non, c'est facultatif. On peut pas vraiment. Les jeunes viennent pour un diplôme universitaire. Alors, ce qui est obligatoire, c'est ce qui se passe dans le programme universitaire. Mmh. Alors, c'est facultatif.
Est-ce qu'ils sont nombreux à venir? Est-ce qu'ils répondent présents?
Ben alors c'est ça. Alors on travaille très fort pour s'assurer qu'avant même qu'ils arrivent sur le campus, qu'ils soient informés que ces outils existent et qu'on les encourage à les utiliser. Mais on travaille beaucoup sur la promotion sur le campus pour qu'ils puissent le savoir. Mais oui, tout à fait, c'est facultatif, ce n'est pas une obligation qu'ils le fassent. Mais je pense que ça aide énormément et la jeune fille pourrait nous en parler. Je ne sais pas si elle a suivi des activités, mais je pense que ça aide à se donner les outils pour réussir.
Ania Durovic, j'aimerais bien votre point de vue de sociologue sur tout cela. D'abord sur le besoin justement d'être accompagné sur la route de l'autonomie et puis sur cette idée de cours proposés par les universités. Est-ce que c'est une bonne idée à retenir peut-être ?
Oui, alors moi je pense qu'il faut surtout rappeler, même si ça peut sembler banal, que les jeunes sont vraiment un groupe social infiniment hétérogène. C'est trop souvent mis de côté, mais en fait cette diversité entre jeunes induit des inégalités dans les conditions et le vécu de la jeunesse. Donc, pour prendre l'exemple de Lilou, effectivement, on peut se retrouver à l'étranger, on va devoir apprendre les codes, les démarches administratives, etc. Mais tout cela peut être peut-être facilité si on a une mère ou un père qui a déjà peut-être lui-même fait des études à l'étranger, était peut-être dans ce pays et s'y connaît. Donc, une telle personne n'aurait pas besoin peut-être d'un tel cours. Mmh. Or, ce type de cours, en fait, ça permet justement de donner à tout le monde les mêmes types de connaissances, peu importe si leurs parents ont fait des études supérieures ou pas, ou ont fait des études supérieures dans un pays étranger. Donc, ça permet justement de redonner les mêmes chances à tous les étudiantes et étudiants.
Justement, Lilou Doguet, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé avec vos amis, quel que soit d'ailleurs leur parcours après le bac, mais est-ce que certains se sentaient plus perdus dans la gestion du frigo, dans le ménage, dans plein de choses, dans tous les aspects de la vie quotidienne.
J'ai eu plusieurs connaissances qui ont eu plusieurs difficultés, même au niveau de la recherche du logement, parce que la recherche du logement est vraiment très différente à Montréal, par exemple, que par exemple à Paris ou en France. Donc je sais que ça a été un aspect assez compliqué à l'arrivée à Montréal.
Michel Glémeau, est-ce que c'est plus nécessaire d'ailleurs pour les étudiants, pour les petits Français, je vais le dire comme ça, mais c'est affectueux bien sûr, que pour les étudiants locaux, alors d'abord parce qu'il y a évidemment l'expatriation, mais peut-être que, l'école prépare différemment ou la famille prépare différemment ici les jeunes à l'autonomie par rapport au Québec ?
Un peu comme la sociologue le disait, je pense qu'il y a quand même une grande diversité dans les étudiants, puis même dans les étudiants qui viennent de France, ils peuvent venir d'un peu partout. Alors, puis le jeune arrive avec le niveau d'autonomie que la famille lui a éventuellement inculqué. Mais ils sont,
moi, je pense qu'un élément qui est super important, c'est qu'ils sont jeunes et que parfois, ils ont eu des parents super encadrants. Ils viennent d'un lycée, ils ont été dans un contexte très encadrant. Ils ont eu des parents qui étaient très présents pour les accompagner, ce qui est une richesse dans la réussite académique. Il n'y a vraiment aucun doute de ce côté. Mais quand à un moment donné, il faut apprendre à voler de nos propres ailes, ben il y a peut-être des réflexes qui sont pas tout à fait là. Mais ce contexte existe également au Québec. À l'Université de Montréal, on a beaucoup de jeunes qui viennent de d'autres régions du Québec, qui eux aussi arrivent et qui doivent apprendre à gérer le quotidien, que ce soit le frigo, l'appartement, comment faire le transport. Le transport est très différent de Montréal et parfois d'autres villes québécoises. Alors, je pense que ces compétences doivent être apprises par tous les jeunes et je pense même qu'il y a une richesse entre jeunes de partager, de dire, ben moi, je viens de France, puis voici comment ça se passe chez moi. Mmh. Moi, je viens de tel pays de la Côte d'Ivoire, ben c'est comment ça se passe chez moi. Fait qu'il y a comme une richesse, il y a comme un lieu d'apprentissage également dans cette réalité que les jeunes vont vivre.
Anya Durovitch, vous parliez de la réduction des inégalités que ça pouvait apporter. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que ça puisse réduire les inégalités de genre, parce que peut-être qu'on reproduit des schémas que les jeunes filles ont peut-être plus appris que les jeunes garçons à tenir une maison, entre guillemets, pour utiliser une bien vieille expression?
Alors, du genre, là, ça n'aurait pas été la première variable que j'aurais eu en tête, parce qu'on, ce qu'on voit, ce que nous montrent les études françaises et internationales, c'est qu'en fait, depuis quelques années, les filles réussissent même mieux à l'école, voire à l'université, que les garçons. Donc, de ce point de vue-là, je connais peu d'études qui, voilà, stipuleraient que cette gestion du budget ou cette apprentissage des tâches quotidiennes, là, qu'il y aura une forte inégalité entre les filles et les garçons.
Je pensais plutôt, pour la suite, se dire que finalement, en donnant des cours à tout le monde à l'université, par exemple, eh bien, on éviterait que par la suite, dans les foyers, ce soit les femmes qui aient la charge mentale de beaucoup de choses.
Tout à fait, c'est tout à fait louable. Cependant, moi, j'ai beaucoup plus pensé justement aux jeunes venant des familles moins favorisées qui, justement, n'ont pas forcément les clés ou n'ont pas eu cet accompagnement pour la gestion notamment du budget. Et d'ailleurs, c'est un grand enjeu pour les jeunes pris en charge par l'ASE et par l'aide sociale à l'enfance. C'est un très, très grand enjeu de justement leur permettre d'apprendre toutes ces tâches. Donc, c'est vraiment ces jeunes-là qu'il faudra soutenir et leur aider et les prendre à la main pour leur apprendre justement tout ce type de tâches qui sont indispensables dans le passage à l'âge adulte.
Michel Glémaud, vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle, évidemment, qui va être un nouvel enjeu d'apprentissage. Est-ce que vous avez le sentiment que les besoins des étudiants en termes pratiques ont évolué ces 10, ces 20 dernières années? Comment vous voyez la suite? Est-ce que c'est des jeunes aussi qui sont différents de ceux qui arrivaient dans vos universités il y a 10 ou 20 ans?
C'est sûr que je pense que chaque génération arrive avec ses enjeux. Notre souci, c'est de nous assurer de nous adapter à leur réalité. Il y a des choses de base. Il faut savoir gérer un budget concrètement. Ça, c'est à la base. Comment s'assurer de payer son loyer? Comment s'alimenter correctement avec un emploi du temps qui est très chargé? On ne mentira pas non plus. Les frais augmentent. Même pour s'alimenter, ça coûte plus cher. Alors, le jeune doit apprendre comment s'alimenter correctement avec un budget limité. Comment concilier études, emploi étudiant et vie personnelle, ça, c'est des choses qui vont toujours demeurer. Faire face à la solitude également. Les premiers mois, il y a toujours quand même une certaine solitude. Même pour un jeune qui vient du Québec, on passe d'un milieu plus encadré, on arrive dans une très grande université, et là, faut refaire ses repères. Alors, ces choses de base vont toujours demeurer. Et après, s'ajoute la complexité de la vie. On parle d'intelligence artificielle, oui, mais on parle également de l'évolution des domaines. Je veux dire, on va à l'université, on apprend un domaine disciplinaire, mais dans 10 ans, comment ce domaine va évoluer, ça amène également une certaine anxiété. Et je pense que nous, notre devoir, c'est de donner aux jeunes tous les outils pour qu'ils puissent faire face à ces défis de demain, pour qu'ils deviennent des adultes entièrement autonomes et responsables, résilients, capables de trouver des solutions. Je pense que c'est un peu dans cette logique qu'on veut les faire évoluer et on veut qu'ils apprennent à développer cette compétence. Et c'est pour ça que je pense que l'idée de les mettre en groupe et de les amener à travailler ensemble, c'est une belle richesse. Ils repartent avec d'autres compétences.
Anna Durovitch, pensons à ceux qui ne vont pas à l'université aussi. Comment on pourrait imaginer que tout cela aille jusqu'aux jeunes qui font pas d'études longues?
Bah justement, oui, c'est vraiment de l'idée de mettre en perspective ce départ du foyer familial qui représente vraiment une des grandes étapes du passage à l'âge adulte. Et ce qu'on voit là, c'est que le fait de quitter le foyer des parents, bah ça peut être quelque chose qui est subi ou recherché. C'est-à-dire que il y a une partie de la jeunesse, bah justement, veut continuer de faire des études, les prolonger, faire une année à l'étranger, ou changer de formation, alors que d'autres aimeront bien, mais ne peuvent pas se le permettre. Et donc, subissent de devoir rester chez leurs parents, de faire des études dans une autre ville, mais tout en faisant la navette entre la maison des parents ou le foyer parental et l'université. Et donc, on voit une complexification, en fait, de cette jeunesse, parce que il y a aussi les transitions yo-yo. C'est-à-dire que dans un premier temps, les étudiantes vont quitter le foyer des parents, puis ensuite, suite à la perte d'un emploi d'étudiant ou d'un emploi tout court, ils vont devoir réintégrer le foyer parental. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une complexification de cette jeunesse, et surtout qu'elle n'est pas vécue de la même façon en fonction de quel milieu social on vient.
Pour conclure, Lilou Doguet, vous êtes vous ravie de votre expérience d'avoir quitté si jeune le domicile familial? Vous regrettez pas?
Non.
Malgré les difficultés pratiques qu'on avait évoquées. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois d'avoir alimenté la réflexion, est passionnante sur la difficulté de devenir adulte et autonome. Michel Glémeau de l'Université de Montréal, Lilou Doguet, bonne continuation dans la suite de vos études. Anna Durovitch, site Jeunesse Française Contemporaine, co-signé aux éditions CNRS. Merci beaucoup. Tout de suite, le feuilleton. Et depuis le début de la semaine, on réécoute les meilleurs épisodes de ces derniers mois. On part dans les Vosges aujourd'hui à la rencontre d'un pizzaïolo ambulant. Il s'appelle Thibaut Metz, il a 30 ans. Il était cuisinier dans un restaurant traditionnel. Il rêvait de reprendre la route. Depuis 2 ans, il sillonne les Vosges avec sa remorque et ses 2 fours. Étape aujourd'hui à Vieux-Ménil, devant l'entrée de la maison du romancier Hervé Bazin.
Donc là, la commune de Vieux-Ménil. Vieux-Ménil est un beau petit village, donc j'ai un bel emplacement avec un petit abri où les gens peuvent s'installer. Tout à l'heure, l'association du village va venir pour installer des tables. Au fait, on est au cœur de la source de la Saône. Je me suis renseigné avec le maire, donc 150 à 180 habitants ici. Et des fois, on fait des soirées où je peux passer 110, 120 pizzas en début de mois. Ça peut être plus calme en fin de mois.
Parce que ouais, les gens ont peut-être moins de sous. Ouais.
Voilà, les gens ont moins de salaire. Et puis là, on va ouvrir les auvents. Voilà, comme on le voit, les boîtes à pizza sont déjà pliées, on a juste à déballer. Et comme vous pouvez voir mes fours. La pizza du papa, bonsoir.
Ouais, bonsoir, c'était pour réserver 2 pizzas, s'il vous plaît.
Pas de soucis, vous voulez quoi?
Il y aura une Léa sans parmesan. Et moi, j'en sais rien. Vous avez quoi avec du poulet?
J'ai la poulet pesto ou la poulet barbecue, donc sauce barbecue maison ou pesto maison. Après, à choisir, je vous conseillerais la poulet pesto, c'est le must.
Ok, je prends ça. Vous êtes à Lyon-Ménil, là?
Oui, en plein milieu du village, à côté de la mairie.
Ok, parfait, nickel.
Et à tout à l'heure.
Ouais, à tout à l'heure.
Au revoir. Voilà le secret de la pizza un peu jaune. C'est vraiment une pâte qu'on travaille traditionnellement à la main sur de la semoule. Donc c'est une semoule spéciale maïs blé. Dans la pâte, il y a des petites graines qui ramènent un petit goût, tout ça. C'est vraiment quelque chose de très fin. On voit la main en dessous. Et voilà, chef. La pizza du papa, bonsoir.
Bonsoir, ça serait possible de réserver
Bye.
Une pizza et une
jambe. Ouais, vas-y, je te cale avec. Bye. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure, salut. Salut. Donc ça, c'est les agriculteurs de Vissoyon. Donc ouais, je reconnais, ouais, on reconnaît les voix, hein, c'est, on peut pas les louper.
Je m'appelle Théo, j'ai 23 ans, je suis ouvrier forestier.
Vous venez de quelle commune, vous ?
Ville-sur-Yon, on va dire 20 minutes. Et puis, bah, comme j'ai de la famille sur le secteur de Vieux-Ménil, c'est pour ça que je passe les voir en même temps et je viens chercher les pizzas.
Moi, je viens de Pierrefitte.
Ouais, 10 km maximum.
Ouais, il y a beaucoup de concurrence. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Après, ils ont tous leurs spécialités, comme le frichetier qui fait les burgers. Pareil, ils cartonnent. Je pense qu'ils cartonnent, parce que maintenant, ils ont deux camions. En pizza, moi je dis 1, 2, il y en aurait 3, 4.
Ah quand même, ouais. Sur le même territoire.
Ouais. Après il y a Girancourt, il y en a aussi un là-bas.
Ah c'est quand même plus loin.
Ouais, ouais mais 20 km pour une pizza, je la fais.
Moi aussi.
Ah oui, si on mange un truc qui est bon et de qualité.
Tu prends la carte ?
Ouais, je prends la carte.
Eh bon, regarde.
S'il te plaît, attends. Ouais, c'est tout bon pour moi.
Nickel.
Allez, bon appât à toi. Salut.
Au revoir. Allez,
vas-y.
Dis-moi, tu veux.
Une reine, s'il vous plaît.
Une reine. J'essaie de te faire ça à 19h45.
Ouais, ça marche.
Là, t'as pris la dernière.
Okay.
Voilà. La piste du papa, bonsoir. Je pourrais pas rajouter, je pourrais avoir rajouté une flamme parce que je suis déjà complet pour les pizzas. J'ai plus de pâtes.
Ok, bah oui, rajoutez-moi une flamme.
Ça vous va ?
Ouais,
allez, à tout à l'heure, au revoir.
Pas merci, hein.
Merci à toi. La semaine prochaine, je serai avec le bar ambulant.
Je serai avec le bar ambulant.
Ouais, avec Alain, si tu veux passer. Allez, salut, salut. Même si des fois on finit à 23h, minuit, 1h du matin, du lundi au samedi, je suis fin heureux. Le rêve d'enfant est devenu réalité. Mon camion, un peu comme on joue au Playmobil avec le food truck, bah là, bah, je l'ai en vrai. Enfin, je peux pas rêver mieux. La piste du papa, bonsoir.
Une semaine dans leur vie, feuilleton signé aujourd'hui Cécilia Arbona.
France Inter. Le 13-14.
13h50, c'est la France. Et le vendredi, c'est la France des cimes et des océans. Avec vous, Virginie Troussier, vous avez choisi aujourd'hui de nous emmener au large, là où la terre se fait rare et le vent souverain.
Oui, à l'île de Sein, dans le Finistère, cette bande de terre livrée à la mer, au large de la Pointe du Raz. En cette période de fête, j'ai découvert le dernier livre de Michel Lèbre, Naufrage, qui nous donne à voir l'île autrement. Un roman bref, traversé par le vent. Tout mon corps frissonne quand je pense à cette île, à ce qu'elle semble avoir laissé en moi et que je cherche à saisir, écrit-elle, évoquant le parfum de lointain de Sein. Elle s'y rend pour trouver un lieu où respirer, non pas à distance des tempêtes, mais tout près d'elle, dans leur souffle. Michel Lèbre veut entrer dans le vent, s'y confondre, pour sentir à nouveau la vie circuler en elle.
Une île battue par les vents, Virginie, mais où l'on viendrait trouver refuge.
Exactement, Céline. Sein, c'est une île minuscule. 2 km de long, 500 mètres au plus large, au ras des flots. Elle dessine un S inversé, dont la partie centrale est large d'à peine 50 mètres. Une île basse, vulnérable, cernée d'écueils et de bouillonnements océaniques. Et pourtant, un village existe bel et bien. Des maisons serrées, des ruelles étroites, un quai où les habitants regardent passer le temps et les vagues. C'est un lieu de veille, de ténacité, un refuge pour ceux qui ne fuient pas le vent, mais l'acceptent, pour ceux qui apprennent à se laisser traverser par les éléments. Les bourrasques font naître une énergie primitive, puissante.
Alors on devine pour autant que la vie sur cette île tient à peu de choses.
En effet, le risque ici n'a jamais cessé d'exister. La submersion d'abord. Sein n'émerge qu'à 1,5 m au-dessus de la mer, 9 mètres à son point culminant. À chaque tempête, la côte se rétrécit, les digues se fissurent, la mer gagne un peu de terrain. Certains scientifiques craignent même qu'un jour l'île se morcelle. Mais la menace la plus profonde n'est peut-être pas celle de la mer, c'est celle du dépeuplement. L'hiver, l'île ne garde plus qu'une centaine d'habitants. L'été, ils sont près d'un millier. À l'année, à peine 270. Le chiffre n'a cessé de baisser. Les Sénans redoutent la fermeture des cafés, la lente disparition du lien, du partage, de la vie ordinaire.
Alors qu'est-ce qui nous inciterait à vivre là-bas quand tout invite à partir ?
L'aventure, peut-être ? Dans son livre, Michel Lèbre arpente l'île à la recherche de tempêtes, d'imprévus, d'émotions. Il n'est sage que d'aventure, écrivait la navigatrice Anita Conti, que cite beaucoup Michel Lèbre. Cette phrase pourrait aussi appartenir à Jean-Pierre Abraham, ancien gardien du phare d'Armen, situé à quelques encablures de Sein. Il est l'auteur d'un livre éponyme absolument magnifique. Quand on lui a demandé un jour pourquoi il était venu là, il a répondu simplement « Je ne sais pas, il me semble que j'avais l'impression que la vie se passait sans moi et à mon insu, si bien que j'ai décidé un beau jour, enfin, de changer. J'ai vu Armen, je suis passé par là en bateau et puis tout d'un coup, j'ai décidé de venir là. J'avais trouvé mon lieu. » On comprend alors que trouver son lieu, c'est peut-être rejoindre ce point de vie qui redessine inlassablement nos contours, comme la mer redessine chaque jour ceux de l'île de Sein.
Merci Virginie Troussier de C'est la France. Ah, c'est une chanson avec le dernier épisode de notre semaine spéciale Alain Souchon. Aujourd'hui, on réécoute l'entretien de Frédéric Pommier avec le journaliste, animateur, Jamy Gourmaud, qui avait choisi un titre de 1983, Saute en l'air. Alain Souchon qui l'écoute depuis qu'il est adolescent.
Moi, j'ai des souvenirs de Souchon quand j'étais en classe de seconde. J'écoutais ses paroles et quelque chose me plaisait dans son style. Je ne savais pas quoi. Cette manière de parler de nos sentiments, mais d'une autre manière que les autres poètes, que ceux qu'on étudiait à l'école. Et donc, ça me plaisait. Je me souviens d'avoir cité plusieurs fois dans des dissertations Alain Souchon. Et alors, mon prof de français s'arrachait les cheveux. Et il me disait, mais non, on ne cite pas Alain Souchon dans une dissertation. Et je prétendais que c'était un grand poète et que, voilà, ça durerait pendant longtemps. Je ne me suis pas trompé.
L'avenir vous a donné raison.
Voilà. Moi, je crois que, voilà, la première des choses qui me séduit chez Souchon, c'est sa façon de nous parler de nous avec des mots simples, en contemplant l'instant. C'est-à-dire qu'il nous raconte de grandes histoires à partir de petits détails de nos vies.
Il est lourd, le pesant passant, aussi le sont les éléphants. Qui donc appuie les hommes sur le goudron, leurs désirs suivant gardant l'effet qu'elles font. Qui a mis de l'équateur au pôle ce colis qu'on a sur les épaules? Est-ce que c'est le ciel, le couvercle, la Baudelaire qui nous aplatit, nous plaque par terre? C'est une horreur, la terre est un aspirateur qui veut notre corps, l'aspire, l'espère. Elle te désire, la laisse pas faire. Saute en l'air, saute en l'air. Puisqu'on s'enfonce dans la poussière.
1983, c'est l'année où je viens d'avoir mon bac. Je rêve déjà d'être journaliste et je fais mon premier stage dans une radio. Alors, c'est une radio privée, mais il y a une belle rédaction, il y a une quinzaine de journalistes, il y a une matinale. J'arrive tous les matins pour participer à cette matinale. Et comme c'est une chanson qui fait partie de la playlist, eh bien très souvent, le matin, entre 6h30 et 7h30, il y a cette chanson qui passe à la radio, qui passe à un moment où je suis dans cette rédaction avec une poignée de vrais journalistes que j'observe, que je découvre, qui me demandent de rédiger des petites brèves. Et je fais ça au son de cette chanson. Et je m'aperçois que cette chanson, elle représente un petit peu ce que je suis en train de vivre. Saute en l'air, c'est prendre ton élan, t'envoler, résister à tout ce qui pourrait te retenir là où tu es. Je ne sais pas si c'est le sens qu'a voulu lui donner Alain Souchon, mais en tout cas, c'est le sens qu'elle prend chez moi.
Et est-ce qu'elle vous revient parfois dans l'oreille avec ce même message « Ne reste pas en place » ou en tout cas « Ne t'endors pas sur tes lauriers » ?
Oui, je pense qu'elle est sans arrêt présente.
Frais mimosa, gazon si doux, c'est pas pareil, dessus, dessous. Jésus Copé, c'est pas laissé faire. Il a sauté, hop, à toi de faire.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il appartient à ces chanteurs qu'on peut considérer comme des compagnons de vie?
Alors, en ce qui me concerne, oui, le mien, c'est Souchon, assurément.
C'est lui et lui seul.
C'est lui et lui seul. Et ça fait du bien, d'ailleurs. Parce qu'en même temps, Souchon me ramène à l'endroit où j'ai envie d'être. J'ai eu la chance avec certaines émissions, Le Monde de Jamy, de pas mal voyager, d'enchaîner les destinations, parfois un peu trop vite. Et quand on a besoin de se poser, systématiquement, quand je veux me remettre en place, revenir dans mon cocon, quand voilà, y a un coup de pompe, un coup de blues, j'écoute Souchon.
Et ça vous redonne la pêche ?
Et ça me redonne la pêche, bien évidemment. Vraiment, j'ai le sentiment qu'il m'a toujours accompagné. à chaque étape de ma vie, il y a une chanson de Souchon qui est là pour me parler.
L'air d'Alain Souchon. C'était donc le choix et les confidences du journaliste et animateur Jamy Gourmaud au micro de Frédéric Pommier. Un mot pour remercier celles et ceux qui ont fabriqué le 13-14 cette semaine. À la rédaction en chef Corinne Boulous, Sonia Princé, Estelle Schmitt et Mathilde Imberti, assistée par Stéphane Rousset, Swat Bellani et Nicolas Sabat, notre attaché de production, Benjamin Ducy. Merci aux techniciens et techniciennes Corentin Rouchy, Thomas Allard, Paola Collin, Arnaud Caillé et Clément Berman. Merci également aux standardistes de France Inter.